On a le privilège maintenant de passer ce temps autour de la parole de Dieu pour être enseigné par lui. Hein, et on veut vraiment prendre ce temps avec beaucoup de joie, mais aussi beaucoup de sérieux. Et remercier le Seigneur de nous donner cette possibilité d'avoir accès à cet enseignement de sa parole. Ce n'est pas l'enseignement d'une église, ce n'est pas l'enseignement d'un courant religieux. Vraiment, on veut se mettre à l'écoute du Seigneur. Amen. Que son nom soit béni. On est toujours dans l'étude sur les fondements et on va faire notre 15e étude. Merci beaucoup. Quelques rappels avant de commencer. Donc c'est l'avant-dernière. La semaine prochaine, il y aura le culte de famille avec la dernière étude. On a l'impression qu'on ne peut jamais s'arrêter quand on parle des fondements, mais il faut s'arrêter à un moment donné. On avait donc fixé notre attention sur le livre des Actes des Apôtres pour nous concentrer sur les premiers temps de l'Église dans l'histoire de l'humanité, après que Jésus soit venu sur terre et il ait été crucifié, puis ensuite il est revenu 40 jours avec ses disciples, et au bout des 40 jours, il nous est dit qu'il est monté au ciel, il a rejoint le Seigneur et il a dit à ses disciples d'aller à Jérusalem. Et là, on sait qu'à Jérusalem, dans le temple, dans une pièce à part dans le temple, ce qu'on appelle la chambre haute, les disciples étaient réunis et ils priaient. Ils priaient parce que Jésus leur avait dit, vous allez recevoir la promesse, celle du Saint-Esprit. Et nous savons que le jour de la Pentecôte, hein, c'est quelque chose que nous fêtons encore aujourd'hui, le jour de la Pentecôte, eh bien le Seigneur a envoyé son esprit sur ses disciples. Et ils ont été changés radicalement. Et le texte que nous avons vu, alors on a vu, pardon, le rôle indispensable du Saint-Esprit, hein, bien sûr, cette visitation du Saint-Esprit. On a vu le fondement de la croix, la prédication de Pierre, le fondement de la repentance aussi. Dans cette prédication, il y a la notion de repentance. La repentance qui veut dire qu'on doit demander pardon à Dieu pour nos péchés, mais pas seulement, demander aussi une transformation pour changer. Hein, ce qui ne suffit pas de regretter le mal qu'on a fait, mais vous savez combien de fois on a regretté d'avoir mal agi, puis on a refait exactement la même chose. Ça ne vous est pas arrivé à vous? Moi, oui. Mais quand en plus de dire pardon au Seigneur, on dit Seigneur, change-moi, alors petit à petit, on va se rendre compte que cette chose-là qu'on n'arrêtait pas de faire, maintenant, c'est sorti de notre vie. Amen. Et puis on a vu les cinq piliers de la foi chrétienne qui se trouvent dans Acte 2, 42, dans ce verset particulier, Acte 2, 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, premier pilier, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Vous voyez les piliers qui s'affichent là, à la persévérance, l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction des pains et les prières. Donc, au week-end d'église, qui a eu en début de mois, nous étions attardés sur le dernier pilier qui est la prière, et on avait vu même qu'il y avait les prières dans le fait qu'il y ait la prière individuelle, des fois où nous prions seul à seul avec Dieu, et la prière collective quand l'Église se réunit. Je bénis le Seigneur de ce que plusieurs personnes ont réagi par le fait qu'ils ont été enseignés sur l'importance de la prière collective. C'est un bon début. Mais j'espère que d'autres vont suivre. Afin que, vous voyez, regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Vous voyez la salle là? Le mardi soir, vous pouvez enlever toute cette rangée et la moitié de cette rangée. Voilà ce qu'il y a le mardi soir pour prier. Donc on a une grande marge de progression, mais on a commencé à progresser. Et je bénis le Seigneur de ce que le Seigneur interpelle chacun, chacune. On a tellement de choses à faire. Et on se trouve toujours des excuses. Mais le mardi soir, notre place, elle est ici pour intercéder, mes frères et sœurs. Ce pays en a besoin, cette ville en a besoin. Nous en avons besoin. Les enfants de l'Église en ont besoin. Nos projets d'implantation en ont besoin. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous d'un autre pilier auquel on ne pense pas toujours lorsqu'on lit le livre des Actes des Apôtres. Alors qu'on voit que c'est bien présent au début de l'histoire de l'Église. On va lire deux textes pour l'illustrer. Et c'est vraiment un pilier qui accompagne cette période du début de l'Église et aussi qui accompagne la croissance de l'Église. Le premier texte se trouve dans Acte 43, juste après Acte 2, 42. Le début du verset où il est dit « La crainte s'emparait de chacun ». Alors attention, la crainte, ce n'est pas n'importe quelle crainte, c'est la crainte de Dieu dont il est parlé. La crainte de Dieu, on va voir ce que c'est. Et puis dans Actes chapitre 9, verset 31, Luc nous rapporte cette parole. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous avez vu le point commun entre les deux textes? La crainte de Dieu. C'est ce dont nous allons parler ce matin, la crainte de Dieu. Le danger de la grâce, danger de la prédication de la grâce, c'est dire, ben, Dieu est bon, Dieu est amour. Donc c'est pas grave si on se comporte mal, c'est pas grave si on lit pas la Bible, c'est pas grave si on vient pas à la réunion de prière, c'est pas grave, tout ça c'est pas grave. On n'est plus sous la loi quand même, mon frère. Ça, c'est le danger de la grâce. La grâce sans la crainte de Dieu, attention, attention. Il y a la naissance de plus en plus des églises, l'essor des églises que David Wilkerson a parlé, appelé les églises du pardon seul. On prêche le pardon, le pardon, le pardon, la grâce, mais on ne prêche pas la repentance. On ne prêche pas le respect qu'on doit avoir envers Dieu. Et je pense que c'est important qu'il y ait cet équilibre. Vous êtes d'accord? Amen. La crainte de Dieu, c'est pas une peur paralysante. Justement parce qu'on est sous la grâce. Si vous lisez l'Ancien Testament, ceux qui font face à Dieu, ils sont dans une peur paralysante. Hein. Je peux vous dire que là, ils n'en mènent pas large. Hein. Même ils pensent qu'ils vont mourir. Le fait d'avoir vu Dieu. Et la Bible dit, hein, on ne peut pas voir Dieu sans mourir dans l'Ancienne Alliance. Mais dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas une peur paralysante, mais il y a quand même une peur qui est mêlée de respect, d'admiration et de reconnaissance. Le discours, moi-même, en étudiant cela, je me suis aperçu, je me suis un peu trompé sur la crainte de Dieu. Parce qu'on explique toujours, mais non, ce n'est pas la peur, c'est le respect. Non, non, il y a la peur aussi, on va le voir. La peur, elle est nécessaire. La peur, c'est quelque chose qui est là. Les spécialistes vous diront que c'est quelque chose qui nous protège, hein. La peur, elle entraîne des effets dans notre cerveau qui fait qu'on se protège. Si vous n'avez pas peur du feu, ben vous allez mettre la main dedans. Si vous n'avez pas peur d'un animal sauvage, vous allez venir, il est mignon. La peur, elle est nécessaire. Il ne faut pas qu'elle soit paralysante. Il ne faut pas qu'elle soit annihilante, bien sûr. Mais surtout, la crainte de Dieu, c'est quelque chose d'important car elle a des effets positifs dans notre vie sur le plan spirituel. Et on va le voir ensemble. Cette crainte de Dieu, elle amène des choses dans notre vie. Le premier point qu'on va voir ensemble, c'est que la crainte de Dieu nous sanctifie. Elle nous sanctifie, mes frères et sœurs. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, la fin du chapitre 6 et le début du chapitre 7, le dernier verset, premier verset, voici ce qu'il est dit: Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc là, déjà, on voit qu'on est sous la nouvelle alliance. C'est-à-dire que la relation que Dieu veut établir avec nous, c'est de père à fils. Mais moi, je vous pose la question, est-ce que parce qu'on est, vous avez des enfants, est-ce qu'ils ne doivent pas avoir du respect et de la crainte pour vous? Aujourd'hui, ça se perd d'ailleurs. Hein. Bon, je ne vais pas faire une parenthèse parce que sinon, ça va être long. Mais le fait que. On explique aux enfants que, il faut plus qu'ils aient peur de rien, qu'ils aient plus jamais un non, un refus, etc. Il y a des bonnes choses, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on n'a pas bien traité les enfants. Mais aujourd'hui, on est passé dans l'effet inverse. Il ne faut rien dire à un enfant. Il ne faut pas le perturber. Mais on voit ce que ça donne. On voit le résultat aujourd'hui. Il n'y a plus de limites, il n'y a plus de barrières. L'enfant, si on ne lui donne pas des cadres, il ne sait plus où il est. Je ferme la parenthèse. On continue. Ayant donc de telles promesses, donc d'être fils et filles de Dieu, bien aimé, c'est pas « Ouais, c'est génial, j'ai un accès à Dieu, waouh, je suis son fils, sa fille, waouh, quelle complicité, waouh, puis le statut que ça me donne. Ouah. Je suis une princesse, je suis un prince. » J'entends ça des fois. Mais c'est vrai que à des moments, il faut se le dire, c'est bien. Mais attention, regardez ce qu'il est dit. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Le fait que je devienne fils, fille de Dieu, parce que le sacrifice de Jésus à la croix, m'engage à lui ressembler, à être de la même nature que lui. Amen. Et la crainte de Dieu va favoriser cela, puisqu'il est dit de le faire dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est réaliser qui il est. C'est réaliser combien il est saint. Et combien j'ai besoin, moi, de me purifier pour pouvoir être en sa présence et revendiquer le fait d'être fils, fille. Amen. La crainte de Dieu, si vraiment je considère qui est réellement Dieu, alors je vais marcher dans le chemin de la sanctification. Amen. Le thème de la sanctification, on sera amené à en parler à la rentrée. Vraiment, le Seigneur travaille mon cœur depuis plusieurs mois maintenant sur ce thème. Et je vous assure que je me suis senti vraiment petit quand on réalise combien Dieu est saint. Combien Dieu est saint. Est-ce que ça ne doit pas changer notre manière de faire, notre manière d'être? Je parle pour moi en premier. Deuxième chose, c'est que la crainte de Dieu nous pousse à la véritable adoration. Et là, c'est très intéressant. On va lire dans Hébreux chapitre 11, versets 28-29. Et il est dit ceci: c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Ah, pas. C'est pas la meilleure image de Dieu qu'on apprécie, hein. Dieu est un feu dévorant. Je préfère quand on me dit Dieu est amour. Mais il l'est aussi, hein, vous inquiétez pas. Mais ici, c'est justement ce qui est étonnant, c'est que l'adoration, on l'aurait plutôt liée à une crainte respectueuse, alors qu'ici, elle est liée à au fait d'être impressionné, d'avoir peur, tellement Dieu nous impressionne. Le mot qui est utilisé ici dans le grec pour crainte, c'est phobéo. Ça vous dit rien? Phobie. Phobie, c'est le mot qui a donné phobie. Alors il ne s'agit pas d'être théophobe, je ne sais pas si le mot existe, hein, mais d'avoir peur de Dieu au point de le détester, de ne pas vouloir le voir. C'est une peur où on est impressionné par sa puissance. Le mot grec, ici, il nous interpelle parce qu'on pourrait penser que c'est la crainte respectueuse qui nous amène à la louange, mais il ne s'agit pas de cela, il s'agit d'éprouver un immense respect en disant « Quoi ? Quoi ? Dieu fait ça ? Oh !» Je pense à Moïse. quand il s'approche du buisson ardent là, puis qu'il entend la voix de Dieu, il n'emmène pas large, hein. Il n'emmène pas large. Je pense à lors de la résurrection de la veuve de Naïn, dont j'ai essayé de parler tout à l'heure. Il est dit que la foule en voyant ça était dans la crainte. Et c'est à nouveau le mot, c'est un mot dérivé, c'est pas phobéo, c'est phobos. Le fait de voir Jésus faire un tel miracle, ça leur a fait peur. Ils ont dit, waouh, comme il est puissant. Les femmes qui apprennent la résurrection de Jésus, là aussi c'est le mot phobos qui est utilisé. Mais il y a eu la joie aussi. Hein. La première, faut pas qu'on reste à la peur. Mais ce caractère d'être impressionné, ce fait d'être impressionné, d'être subjugué, d'être terrassé en voyant la puissance de Dieu, doit nous amener plus loin, bien sûr. Pierre, lorsqu'il réalise qu'il a Jésus en face de lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il tombe à genoux par terre, il se prosterne. Saul de Tarse, quand Jésus lui apparaît sur le chemin de Damas, qu'est-ce qu'il fait ? Il tombe par terre. Et puis il est parlé, ce même mot est utilisé aussi dans l'épisode d'Ananias et Saphira qui ont essayé de tromper les apôtres et qui sont morts tous les deux. Et là il est dit que tout le monde, tous les gens autour ont été vraiment dans la crainte de Dieu en disant attention, avec Dieu on ne s'amuse pas. Et je crois que cette crainte-là elle est nécessaire mes frères et sœurs. On ne s'amuse pas avec Dieu. On ne s'amuse pas avec Dieu. Troisième point qu'on peut voir, la crainte de Dieu nous rend obéissants. Hébreux 11, 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Moi, ça m'a interpellé. Moi, j'aurais mis les choses dans l'autre sens, vous voyez. Crainte respectueuse pour l'adoration et la peur pour obéir. Mais Dieu nous prend à revers. La logique du royaume de Dieu, elle est pas celle qu'on croit. C'est le grand respect qu'on a pour Dieu. Ici, le mot grec, c'est « eulébaomai ». Et comme la traduction le dit dans le texte, hein, crainte respectueuse, le grand respect, un grand honneur qu'on doit à Dieu et qu'on comprend qu'on lui doit, va faire qu'on va lui obéir. Je ne sais pas si vous, dans votre vie, vous avez côtoyé des gens qui, sans vous faire peur, sans vous menacer, sans vous punir, vous ont inspiré un grand respect. Est-ce que vous avez connu ce genre de personnes ? Moi, j'ai connu dans ma vie. Des gens, ils n'ont jamais élevé la voix sur moi. Je pense à une tante, une grande tante, qui a été là dans mon enfance, qui était une femme de Dieu extraordinaire. Il se dégageait quelque chose de sa personne. Moi, qui étais enfant, je la regardais. Et je ne sais pas, j'étais complètement impressionné. Et je peux vous dire que si elle me disait, « Luc, c'est pas bien ce que tu as fait », je ne savais plus où me mettre et j'étais confus, mais à un maximum, en disant, mais non, je l'ai déçu. Non, pas elle. Pas elle, elle, je ne veux pas la décevoir. C'était mon cœur d'enfant qui réagissait comme ça. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous explique. Ça doit témoigner de la relation qu'on a avec Dieu, en fait. Pas cette peur du coup de bâton, mais cette peur de le décevoir. Tellement on l'aime, tellement on le respecte. Si on l'a déçu, alors on est confus, on ne sait plus où se mettre. En fait, vous savez, c'est la différence entre un non-chrétien et un chrétien. La différence entre les non-chrétiens et les chrétiens, ce n'est pas que les chrétiens sont bien et que les non-chrétiens ne sont pas bien. On n'est pas meilleur. La différence, c'est que nous, quand on agit mal, on est confus. On est vraiment confus. Le Saint-Esprit nous reprend. On est confus d'avoir blessé Dieu. Et à force de vivre cette confusion, au bout d'un moment, on va se séparer de ce qui est mauvais. Ouais. Moi, j'ai vécu des moments tels de souffrance en ayant manqué de respect à Dieu que je suis sorti là, mais je disais, mais plus jamais, plus jamais je veux faire cette bêtise, plus jamais je veux vivre ce moment de souffrance devant Dieu, ce moment de honte. Et c'est ça qui a fait que des choses, petit à petit, entre autres, ont disparu de ma vie. C'est ça la différence entre le chrétien et le non-chrétien. Le non-chrétien, il va faire des choses, il ne se rend même pas compte que c'est désagréable à Dieu. En fait, ça ne le touche pas, en fait. Il fait des choses, bon, tout le monde le fait, bon, c'est pas... Bon, merci Seigneur, les non-chrétiens ont une conscience aussi. Hein. Suivant ce qu'ils font, je pense qu'ils doivent aussi se sentir repris. Parce que Dieu a mis en nous sa conscience quand même, de toute manière, on est ses créatures. Oui, je veux lui être obéissant par rapport à ça. Je veux lui obéir par rapport à ça. En fait, on doit expérimenter les deux. On doit expérimenter eulébaomai et phobéo, les deux. Il faut qu'il y ait un mix des deux. Si on n'a que phobéo, ouais, on va avoir tendance à être comme ces enfants où ils obéissent parce qu'ils n'ont pas envie de se prendre une tarte. Et si on n'est que eulébaomai, des fois on va se permettre des choses avec Dieu qu'on ne devrait pas se permettre. La quatrième chose que je voulais voir avec vous, c'est que la crainte de Dieu fait de nous des bons témoins. Elle fait de nous des bons témoins. Amen. Et oui, la crainte de Dieu, quand vous êtes quelqu'un qui craint Dieu, vous n'aurez même pas besoin de parler. Vous n'avez pas besoin de parler. Les gens vont voir, ouh, quelque chose de différent chez cette personne-là. C'est pas pareil. Il n'est pas pareil que les autres. Ils n'arrivent pas à définir, mais il y a quelque chose qui n'est pas pareil. Dans Colossiens chapitre 3, verset 22, il est dit, « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. » C'est un exemple que j'ai choisi parmi d'autres. Vous savez, c'est l'exemple de l'ouvrier qui fait tout comme il faut quand il est avec son patron. Et puis quand le patron n'est pas là, c'est plus pareil. Ouais, ça n'existe pas, ça. Hein. Ça n'existe pas. Ou les enfants... Les enfants, les ados, vous êtes là? Jamais, jamais un gros mot à la maison devant papa et maman. Hein. Ah, jamais. Par contre, à l'école, ah, je parle de ce que j'ai fait moi quand j'avais votre âge. Hein. Donc, je ne suis pas en train de vous jeter la pierre. Mais en fait, Dieu veut nous amener plus loin. Dieu veut nous amener plus loin. Il veut nous amener à réaliser que ouais, papa et maman, ils ne sont pas là, mais Dieu, il est là avec toi. Et il doit y avoir cette crainte, ce respect pour Dieu. On est tellement pas conscient que Dieu est là que des fois, on se cache, on se dit, c'est bon, personne ne m'a vu, alors qu'on est chrétien. On est amené à être des témoins. J'ai vécu plusieurs fois, mon épouse aussi, et je pense que vous aussi, des situations, vous savez, où on vous rend trop de monnaie, où on oublie de vous faire payer une facture ou quelque chose comme ça. Et là, la première tentation, c'est de dire, personne n'a rien vu. Mais quand on est vraiment enfant de Dieu, on dit, non, vous m'avez donné trop, ou allô, je ne vous ai pas payé telle facture. Et je veux payer ma facture, je veux payer ce que je dois. Là, les gens, ils vous regardent. Un problème, lui. Vous savez qu'on sort toujours gagnant de ces affaires-là. Je me souviens d'une fois où j'avais un ami qui avait un garage auto-bilan. Donc j'étais allé faire le premier bilan chez lui. Puis il y avait un petit truc à refaire. Seulement, je ne pouvais pas retourner parce qu'il habitait assez loin de chez moi. Et je suis allé à la même marque, enfin à la même enseigne que lui, dans ma ville. Et quand j'ai expliqué le truc au gars, il me dit: Ah oui, mais comme c'est pas chez moi que vous l'avez fait, quand même, pour la révision, pour le deuxième contrôle, vous allez devoir payer 10 euros. Bon, j'étais pas ravi, mais je dis: Bon, mais tant pis, ça me coûtera moins cher que de retourner là-bas chez mon collègue. Et voilà, donc il a pris la voiture. Puis quand je suis revenu la chercher, il me tend le papier, il me le donne, et puis c'est OK, il ne me demande de rien. Et là, ben, je dis: Ah, j'ai gagné 10 euros. Mais j'ai pas pu. Et j'ai dit: Écoutez, quand je suis venu la dernière fois, on m'avait dit que ça coûterait 10 euros parce que j'avais fait le premier contrôle dans un autre centre. Il me regarde comme ça, il me dit: Ah ouais, c'est vrai. Il dit: Mais pourquoi vous me le dites? J'ai dit: Parce que je suis chrétien, et voilà, je mens pas, je veux être honnête, et je le fais avec plaisir, vraiment, il n'y a pas de souci. Il me regarde, il me dit: Écoutez, on est au mois de décembre, on est en plein compte, machin, ça va me compliquer la vie, allez, c'est bon, vous pouvez partir. J'aurais pu partir et gagner mes 10 euros, mais j'aurais été pendant plusieurs jours à me dire: Mais qu'est-ce que ça fait, Luc? Et là, j'ai gagné mes 10 euros et je suis parti tranquille. Après, peut-être qu'il aurait pu me les faire payer, c'était pareil. C'était pareil, ok? En fait, quand on craint le Seigneur, sans s'en rendre compte, on est des témoins. Dans l'établissement où je travaillais, vous savez que j'étais dans l'éducation nationale avant d'être pasteur, et là, les copies du brevet, c'était toujours à moi qu'on les donnait, pour aller les mettre dans le coffre. Parce que chef d'établissement, il savait que moi, je ne tricherais jamais. Eh, mais il me l'a dit, hein. Moi, je n'avais pas cherché à lui prouver que j'étais honnête. Je vivais normalement ma vie. Il disait: C'est vous qui allez le faire parce que je sais qu'avec vous, j'aurai pas d'embrouille. C'est une grâce. Et d'ailleurs, certains peuvent témoigner qu'ils ont été embauchés, ils étaient peut-être en essai, etc. C'est eux qui ont été choisis. Peut-être pas forcément par rapport, parce qu'ils étaient plus compétents que les autres, mais par rapport à leur honnêteté, leur fiabilité. On fait pas, je suis chrétien, je ne fais pas des arrêts maladie bidons. Hein. Mais ça, un patron, il apprécie. Hein. Les patrons, ils savent quand vous faites des arrêts maladie bidons. La plupart du temps, vous croyez quoi? Vous croyez que vous les trompez? On est amené à être des témoins si on est dans la crainte de Dieu. Amen. Et on veut être des témoins, on l'a vu, c'était important, la mission. Et on terminera d'ailleurs le dernier pilier, parce que je suis quelqu'un qui insiste. Le dernier pilier, on verra ça avec les enfants, on est appelé à aller témoigner. L'Église, c'est une Église missionnelle, ça nous a été rappelé dimanche. J'étais un peu déçu dimanche parce qu'il nous a fait une... Alors non, j'ai dit une bêtise, j'ai pas été déçu parce que la prédication était super. Et que je crois que le frère était inspiré de Dieu. Mais j'espérais de tout mon cœur qu'il allait nous faire le pendant de ce qu'il nous a prêché aux pasteurs. Sur les pasteurs, il nous a prêché sur l'église missionnelle. Qu'une église qui est pas dans la mission, elle meurt. Si elle n'est pas tournée vers l'extérieur, elle meurt. Et on verra ça dimanche ensemble. On le verra ensemble. Amen. Hein? Parce on est appelé à être des témoins. Et la chose qu'on verra, bah, c'est que le Saint-Esprit, il a été donné. Pourquoi? Pour qu'on soit des témoins, c'est ce qui est écrit. On conclut avec quelques textes. D'abord dans les Proverbes. Proverbes chapitre 1, verset 7. Regardez ce qu'il est dit. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Donc ne soyons pas de ceux qui méprisent la sagesse et l'instruction. Ne méprisons pas les enseignements du Seigneur dans sa parole, dans les prédications, dans les dons spirituels. Ne méprisons pas toutes ces choses. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 15, Paul s'adresse à son fils spirituel, Timothée. Il lui dit: Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Là, on vient de voir que la crainte, ça nous rend sage, intelligent, Cette intelligence, elle nous est donnée pour le salut de notre âme. Amen. Et puis, acte 2, 43, 47, on a lu le tout début du chapitre 43 tout à l'heure, hein, la crainte s'emparer de chacun, mais on lit la suite. Regardez la suite. La crainte, ce qu'elle provoque, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Il y avait une unité dans le corps de Christ. Et on en a parlé quand on a parlé de la communion fraternelle, une complicité, une confiance réciproque pour vivre vraiment comme une famille. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Amen. La crainte de Dieu, c'est d'être capable de dire « Oh, moi je suis riche, j'ai tout ce qu'il faut et là, à côté de moi, il y a quelqu'un qui est dans le besoin. Je ne vais pas rester comme ça à dire « Bon, ouais, je prie pour toi mon frère, ma soeur. » Si j'ai les moyens et que je vois quelqu'un qui a besoin, je ne vais pas rester sans rien faire. C'est la crainte de Dieu qui nous pousse à cela. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Waouh ! C'est l'église dont je rêve. L'assiduité. Amen. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ça veut dire qu'ils se réunissaient aussi dans leurs maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie, simplicité de cœur. Louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ceux qui vivent dans la crainte, ils trouvent grâce autour d'eux. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. On revient au chapitre 9 où il est dit qu'il y avait la crainte de l'Éternel et la croissance suivait. La crainte de l'Éternel et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Voilà ce que la crainte provoque, elle a provoqué chez les premiers chrétiens. Et nous, où en sommes-nous? Est-ce qu'on ressemble à cette église de Jérusalem? Est-ce qu'on ressemble à cette église qui vivait dans la crainte de Dieu? Moi, je crois qu'on y est presque, mais qu'on a encore une bonne marche. Amen. Que le Seigneur nous aide à grandir dans la crainte de son nom. Amen. On va prier ensemble. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Te bénissons, te rendons grâce pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci parce que tu nous as tout donné. Tu as été capable de tout abandonner pour nous. Tu as quitté ton ciel. Tu es venu sur la terre. Tu t'es fait homme. Tu as accepté la croix, une mort atroce, dans des souffrances indescriptibles. Tu as fait tout ça, Seigneur, pour une seule chose, pour moi, pour mon salut, pour le salut de tout homme, toute femme sur terre. Seigneur, oui, comment ne pas être rempli de crainte, de respect? Comment ne pas être impressionné? Comment ne pas rester à distance devant quelque chose d'aussi éclatant, d'aussi grand. Merci Seigneur. Donne-nous de trouver l'équilibre entre la grâce, la crainte, la communion, l'intimité que tu nous accordes, mais aussi la distance qu'on te doit dans le respect. Seigneur, par le Saint-Esprit, s'il te plaît, touche nos cœurs, nos vies. Et que nous puissions chacun dire que nous grandissons dans la crainte de ton nom. Merci Seigneur. Sois béni et glorifié. Amen. Amen.